Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Univox. Cette semaine, c'est à Angers que le rendez-vous citoyen de Radio Campus France s'arrête. Le handicap est une vraie problématique dans la France d'aujourd'hui. Comment instruire, comment permettre, comment proposer? Eh bien, c'est à toutes ces problématiques que ce Univox va tenter de répondre. Au sommaire de cette émission, un reportage en immersion sur la compagnie de danse Résonance, réalisée par Camille Lantignac, et une interview de Virginie Marie, directeur de l'association Escale Adapi 49. Cette association permet à des personnes déficientes intellectuelles d'avoir un accès aux loisirs, au travers du sport, de la danse, de sorties ou encore de cours de cuisine. Les escaliens ou escaliennes viennent trouver un moment de répit et de détente.
Virginie Marie, directrice du service Escale de l'ADAPI 49.
Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu l'association ?
Alors, Escale, c'est un service de l'ADAPI 49. L'ADAPI 49, c'est l'association gestionnaire. Et nous, on est un des services comme... aujourd'hui, l'ADAPI, c'est 30 établissements et services.
Sur le département du Maine-et-Loire.
Sur le département du Maine-et-Loire. Donc nous, par contre, notre activité, c'est les loisirs et les vacances adaptées. Donc on a un accueil de loisirs pour les enfants. Donc on fonctionne comme un accueil de loisirs que vous trouvez dans toutes les communes. Où on accueille les enfants de 3 à 12 ans. Donc aujourd'hui, on accueille des enfants pour 2/3 porteurs de handicap et 1/3 d'enfants valides. On a également un secteur ado. Donc là, on va accueillir les 13-17 ans les mercredis et les 13-20 ans sur les vacances scolaires. En gros, on va intervenir quand les établissements spécialisés ferment, nous on ouvre. Donc on va être ouvert une semaine sur deux lors des vacances scolaires. On n'est jamais ouvert les deux semaines.
Et donc, en fait, vous proposez ces services pour soulager les parents ou pour accueillir les enfants quand ils n'ont pas école ou même quand ils ont école?
Alors, quand ils ont école, on ne les accueille pas. On va vraiment les accueillir après l'école. À la base, Escale, hein, c'était une association à part entière de parents militants qui avaient besoin de temps de répit. Et du coup, pour avoir du temps de répit, en dehors de l'école, il fallait aller vers les loisirs. Donc, voilà. On va venir être un lieu, on va être un lieu complémentaire de l'établissement spécialisé ou de l'école. Mais vraiment que sur le champ du loisir.
Et alors, qu'est-ce que vous proposez justement comme type de loisir?
Alors là, sur l'accueil loisir et le secteur ado, on va être sur l'accueil collectif de mineurs, hein, avec des temps de mercredi de vacances scolaires, des sorties, des activités manuelles, par exemple visite d'un musée, jeux sportifs, création de tam-tam, voilà. On va parcourir toutes les activités de l'animation. Et après, on a un secteur adulte et un club sportif. Et sur le secteur adulte, là, on va plutôt être sur des sorties en soirée, en journée ou en week-end. On va être plutôt permettre... Alors, on va accompagner, on va être moins animateur, on va plutôt être dans l'accompagnement à la sortie bowling, à la sortie restaurant, à la sortie cinéma. On peut également avoir des activités créatives ici, au sein de la cité. Mais voilà, on va être sur des activités comme monsieur et madame tout le monde. Sauf que là, la difficulté de la personne fait qu'elle ne peut pas sortir toute seule, soit par manque de transport, soit parce qu'au niveau de l'autonomie, c'est plus compliqué. Donc nous, on va amener à ce que la personne puisse vivre, comme vous et moi, des activités de loisirs.
Et comment vous amenez ça?
Comment on amène ça? En les accueillant sur nos activités, en les accompagnant jusqu'à l'activité, en animant l'activité. Voilà, donc on peut avoir des activités sur Angers, sur l'agglomération d'Angers. Alors sur les adultes, on est même sur l'ensemble du département, puisqu'on a aussi des activités sur le Choletais.
Et alors, comment est-ce que vous adaptez les activités pour justement répondre aux demandes des personnes qui ont des difficultés physiques ou moteurs ou psychologiques?
Alors nous, on va avoir beaucoup plus de personnes déficientes intellectuelles que handicap moteur. Après, il y aura quelques troubles associés. Et bien, en fait, on va faire attention pour tout ce qui est handicap moteur au lieu où on va aller. Et pour les personnes déficientes intellectuelles, on va être déjà dans un encadrement supérieur à un accueil de loisirs. On est un animateur pour 3, donc c'est 4 fois le taux d'encadrement. d'un accueil de loisirs. Et sur les activités de loisirs adultes, ça va être pareil. On va être sur du 1 pour 4. Et puis, ben, on va adapter, on va prendre plus de temps, on va trouver des astuces. Par exemple, je prends un exemple d'un enfant qui n'arrive pas à tenir un pinceau pour faire de la peinture. Et ben, il va prendre une petite voiture, il va la tremper dans la peinture et il va la rouler sur sa feuille. Voilà, des petits exemples comme celle-ci. Sur les activités cuisine, on va travailler énormément avec les pictogrammes pour les adultes. Donc, on va écrire la recette. Mais on va l'écrire avec des pictogrammes, donc soit très visuel pour qu'ils puissent se repérer. On va pas écrire deux cuillères, mais on va montrer qu'il y a deux cuillères et le pot de farine. Donc ce sera des images, deux cuillères et le pot de farine. Voilà, tout est adapté en tout cas par rapport à l'activité. Après le bowling, il n'y a pas d'adaptation, hein. On va jouer au bowling, on joue au bowling. Voilà. Par contre, on va être plutôt dans l'accompagnement, on va expliquer règle par règle, une consigne par une consigne. Voilà, donc on va être un peu plus proche en tout cas de sur la pratique.
Comment est-ce qu'on adapte le sport en général aux personnes déficientes intellectuelles ?
Alors du coup, effectivement, quand elles arrivent, il y a tout un apprentissage. Alors je parlais de consignes, mais là on va retrouver la même chose. On va commencer l'activité, donc ce sera une activité comme tout le monde, sauf qu'au lieu d'envoyer 5 consignes à la suite, on va l'éducateur sportif. Donc là, en plus, sur le sport, on a un club sportif. Effectivement, tout à l'heure, on en parlait avec plusieurs disciplines sportives. On fait partie du coup du sport adapté, et pas du handisport, sport adapté déficience intellectuelle. Handisport, handicap moteur. Hein, donc, c'est deux fédérations différentes. Là, on est vraiment sur la pratique du club sportif. Donc, toutes les personnes qui sont là, déjà, elles sont licenciées. Donc, elles appartiennent à la fédération de sport adapté. Elles ont une licence. Certaines en loisirs, certaines en compétition. Donc là, les éducateurs sportifs sont des éducateurs qui ont été formés à l'accueil de personnes déficientes intellectuelles. Et du coup, ils vont accompagner à la pratique par la consigne. Donc, une consigne, on l'exécute, on la réalise. Une deuxième consigne, ainsi de suite. Et ça se fera progressivement sur toute l'année. Ils peuvent également, eux aussi, utiliser ce que tout à l'heure, je parlais des pictogrammes pour montrer, ou alors via la tablette. Maintenant, on a la chance d'avoir des tablettes numériques pour montrer en fait la posture qu'on doit avoir sur l'exercice.
Alors justement, donc vous avez un éducateur sportif, mais je suppose que vous êtes comme une grosse équipe. Vous êtes combien ? Il y a quoi comme poste à peu près ?
En fait, Escale, c'est 9 permanents. Quand je dis 9 permanents, c'est les animateurs et le pôle administratif. Donc on a deux animateurs par secteur, souvent ils sont par binôme. Deux animateurs sur l'accueil de loisirs, deux animateurs sur le secteur ado, deux animateurs sur loisirs adultes, deux animateurs sur le club sportif, deux personnes au niveau de l'administratif. Et on a aussi une éducatrice sportive qui est sur le Choletais. Sur le secteur adulte, du fait qu'on s'est développé, il y a une animatrice supplémentaire qui intervient aussi sur Cholet. Et en fait, on a, ce qui est très important chez nous, c'est un animateur qu'on appelle passerelle. Ça veut dire que sur le secteur enfant, on a un animateur qui a un temps de travail sur l'enfance, un temps de travail sur la jeunesse, qui va permettre d'accompagner l'enfant de 12 ans vers le secteur ado. Du coup, cet enfant-là aura le repère. Voilà, le même animateur, donc il y aura un accompagnement. Et on va retrouver ça du secteur ado au secteur adulte, où là, on a la directrice du secteur ado est animatrice sur le secteur adulte. Pareil, l'accompagnement, le repère. Donc ça, pour nous, c'est important de travailler autour de ça. Donc en gros, voilà, c'est 9 permanents. Et sur toute l'année, on tourne entre 50 et 60 animateurs occasionnels, puisqu'on fait des vacances, je le disais tout à l'heure. Et du coup, l'été et l'hiver, on a des séjours adaptés.
Vous avez des bénévoles ?
Oui. Alors, toutes nos activités en soirée sont encadrées par nos permanents et en renfort des bénévoles. Par contre, tout ce qui est activité, dès qu'il y a nuitée, bien évidemment, les animateurs sont salariés. Voilà.
Et vous avez combien de bénévoles et combien d'adhérents à peu près ? Vous encadrez combien de personnes ?
Alors, le nombre de... Alors, nous, on appelle usagers, ou escaliens, ou escaliennes. C'est joli, escalien, ou escalienne. C'est 400 personnes. Enfants, ados, adultes, sportifs.
À l'année.
En bénévole, on doit tourner à 20-25 bénévoles à l'année, sachant que ils peuvent choisir, hein, bien évidemment, on n'impose pas, ils sont bénévoles déjà. Donc ils choisissent sur les activités sur lesquelles ils souhaitent venir. Donc on fonctionne avec un petit doodle, hein, voilà, on est très tendance. Ils choisissent l'activité et ils se positionnent. Donc il y en a qui viennent qu'une fois par trimestre, d'autres qui viennent régulièrement. Souvent, ce sont des étudiants. Soit éducateur spécialisé, moniteur éducateur, psycho, enfin voilà, on est ou des animateurs qui souhaitent être animateurs plus tard. On a des gens qui sont salariés d'un secteur, enfants par exemple, qui ont envie de découvrir le monde des adultes, donc ils sont bénévoles aussi sur des temps adultes.
Et alors, c'est gratuit, tout ce que vous proposez pour les escaliens et les escaliennes ? C'est combien ? Ça se passe comment ? Est-ce que c'est accessible à tous ?
Eh bien, du coup, on essaye de pratiquer des tarifs accessibles à tous, donc ça va dépendre des activités. Je n'ai pas de tarif bien précis entre une soirée, ça va dépendre de ce qu'est la soirée. Si de la soirée, on va avoir une prestation nous supplémentaire, c'est-à-dire au bowling, donc là, il faut bien payer l'entrée du bowling, payer la location des chaussures. Donc là, bah, le coût ne sera pas le même que si on a une activité ici. Ça, y a tout prix, on a un catalogue avec l'ensemble de nos tarifs et selon la soirée, les personnes peuvent se positionner. Donc souvent, elles choisissent, hein, elles se font un petit revenu... une petite enveloppe, et puis bah, elles choisissent une à deux activités par mois. D'autres qui ont plus de moyens choisissent plus. Sur nos week-ends, c'est pareil. On a des week-ends pour les un peu plus élevés que d'autres. Voilà, on essaye d'ouvrir en tout cas à tous, à toutes les personnes, selon leurs revenus, quoi.
C'est-à-dire que vous faites quand même des tarifs progressifs, des tarifs dégressifs, des tarifs solidaires en fonction des revenus de chacun ?
On ne va pas dire ça. On va en fait sur le club sportif, effectivement, on utilise, enfin, il y a une tarification à l'année pour une activité, ça va être dégressif si j'en choisis une deuxième, si j'en choisis une troisième. Sur nos activités de loisirs, non, c'est l'activité coûte tant, donc on va demander tant. Après, on fait ressortir, nous, sur nos factures, hein, purement administratives, là, le surcoût lié au handicap. On a un pourcentage qui avait été calculé à l'époque entre la CAF et le conseil départemental, si je suis mineur, si je suis majeur. Et on va faire ressortir ce surcoût-là. Et les familles, du coup, pourront solliciter des aides par rapport à ce surcoût-là, donc notamment la MDA, Maison départementale de l'autonomie.
On remercie Virginie Marie d'avoir répondu à nos questions.
Univox.
Le monde de la musique n'est pas exempt de la problématique du handicap. Michel Petrucciani, atteint de la maladie des os de verre, est un des meilleurs pianistes de jazz français des années 90. Dès 4 ans, son niveau de piano est déjà excellent et son père, afin de ne pas freiner son apprentissage, lui construit un réhausseur de pédales. Il devient concertiste professionnel à l'âge de 13 ans et un de ses duos qui a le mieux fonctionné est celui qu'il a réalisé avec Eddie Lewis, un pianiste et joueur d'orgue Hammond. On écoute leur reprise du célèbre morceau So What de Miles Davis. Thank you.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
La compagnie Résonance traite de handicap comme tout le monde devrait le faire. Derrière le handicap, il y a des gens. Et c'est avec ces personnes que Marie-France Roy, chorégraphe, fait de la danse. Les danseurs ont imaginé, avec l'aide de Marie-France, un spectacle de danse contemporaine. Camille Antignac, notre reporter, s'est immergée dans la vie de la compagnie.
À 18h, les danseurs commençaient déjà à se préparer pour la deuxième représentation des Momènes la danse.
Mais habituellement, à la fin des jardins, moi quand je faisais mes galas au grand théâtre, il y avait toujours
après les cachés dans les coulisses, avec les saluts de façon publique.
Qui venaient offrir les fleurs, voilà.
Ça veut dire, ah, vous avez galas de fin d'année.
J'ai donc eu l'occasion de rencontrer Marie-France Roy, la chorégraphe, pour parler de son association qui réunit des danseurs, tous très différents les uns des autres.
À partir de 1996, une opportunité m'a été donnée par la ville d'Angers de rassembler sur scène des personnes âgées et des enfants. Donc c'était la première expérience intergénérationnelle. Et à partir de cette expérience-là, je me suis dit, ben, pourquoi s'arrêter aux enfants ou aux personnes âgées ? Donc j'ai rajouté des jeunes, des ados. Et à partir de 2004 est arrivée la personne en fauteuil roulant. Et 2008, la personne déficiente intellectuelle ou malentendante ou malvoyante. Je crois que pour moi, au fond de moi, depuis longtemps, la danse, elle est pour tout et à chacun. C'est peut-être aussi mon histoire d'enfance qui me dit que la danse devrait toucher tous les milieux socioculturels. Puisque moi, je viens d'un milieu simple et je n'avais pas accès à des écoles de danse. Et je me suis dit, bien, tout le monde a le droit de danser et de vivre des expériences telles que je mène depuis des années. Moi, j'ai commencé à danser à 20 ans. Voilà, parce que je viens de dire, je viens d'un milieu où ça faisait pas partie de mon univers. Et à 26 ans, j'ai commencé à passer des auditions pour le CNDC, faisant partie avant d'une compagnie amateur auparavant. J'ai toujours choisi de transmettre la danse. C'est-à-dire, j'ai jamais rêvé d'être une grande interprète, mais pour moi, la transmission a toujours été présente. Voilà. Donc, pour moi, c'était évident que c'est une expérience à partager, mais à partager avec des conditions favorables, en mettant tout pour mener à terme une belle création, en mettant tout en œuvre. Ça reste une démarche artistique, un engagement. Ce n'est pas qu'un loisir. Et pour moi, mon rôle de chorégraphe, il est de... Ce que j'aime, c'est le fait de rassembler des gens sur scène, donc tout le travail du groupe et de ce que ça procure, et en même temps m'intéresser aux singularités de chacun.
Ok, les deux mains vers l'avant, voilà, tirez vers le haut, voilà, ouvert, oui, très bien, Gilles, et paume. Attention Gilles, avec la main dessus.
De toute façon, danser, c'est aussi en groupe, c'est vivre le groupe, c'est accepter l'autre, c'est écouter l'autre, c'est toucher l'autre. Et que dans la vie, on peut rencontrer les mêmes facteurs de ce que c'est que de vivre dans un groupe. Et en même temps, de partager une expérience individuelle avec chacun. Moi, quand j'entends par exemple un danseur qui me dit... Ah ben Marie-France, voilà, moi j'ai travaillé un week-end avec toi et jamais j'aurais imaginé faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Pour moi, c'était de l'ordre de l'impossible et ça a été possible. Et ben voilà, c'est ça qui me passionne. Alors les difficultés, elles sont les mêmes que n'importe quel chorégraphe, c'est-à-dire que il faut que chacun prenne sa place avec sa différence. Et c'est vrai que il faut délaisser personne, il faut en même temps prendre compte de chaque singularité. Et ma difficulté, c'est de gérer ça. Voilà. Et en même temps que les gens s'engagent, jusqu'au bout dans la démarche, qu'à un moment donné, que les gens soient fiables dans la démarche, qu'on ne dise pas à un moment donné, la priorité, ça va être autre chose. S'ils s'engagent, c'est qu'ils s'engagent. Ma difficulté, elle est là. Et puis de travailler ensemble, ce n'est pas toujours évident, même entre professionnels. On rencontre les mêmes problèmes que n'importe quel groupe, dans n'importe quel domaine.
On va quand même revenir sur les quatre temps de la pédagogie qu'on a pu lire sur, sur le site Résonance, qui sont les suivantes, donc construction et corps, éléments fondamentaux, improvisation et composition. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors construction et corps, en fait, c'est tout le travail de la construction corporelle, de la conscience corporelle. Donc ça, c'est la position du danseur, savoir où sont ses épaules, une jambe en dehors, en dedans, la tenue du danseur, tout simplement. Moi, je sens bien si quelqu'un a une tenue de danseur ou pas. Après, les fondamentaux, eh bien, c'est tout le... je les ai notés, c'est les fondamentaux de la danse, qui sont les mêmes pour n'importe quel public, hein, c'est pas spécifique à l'handicap. C'est l'espace, le temps, le rythme, la fluidité du mouvement, la notion d'énergie, la notion de poids du corps, le regard, le toucher et surtout la présence. Donc l'improvisation, c'est lié aussi à la composition. L'improvisation... donc je vais traverser les fondamentaux que je viens de nommer, mais avec des consignes précises. C'est-à-dire, je peux donner une consigne précise dans l'espace en disant on dessine que des lignes ou que des courbes ou des points. Voilà. Et à partir de ce moment-là, toutes ces improvisations, il y a un travail de recherche. Et là, ça va se faire en solo, en duo, en trio, en quatuor, en quintette. Tout dépend. Et à ce moment-là, le travail de recherche qu'ils vont me donner le résultat de ce travail de recherche qu'ils ont travaillé entre eux ou tout seul, tout dépend de la consigne. Et à ce moment-là, je retiens ce qui est intéressant, le meilleur, le plus juste. Et à partir de ça, je vais le nettoyer ou rajouter des choses. Par exemple, ils m'ont trouvé un petit enchaînement qui est linéaire. On va lui donner du cachet, c'est-à-dire on va lui donner un moment rapide. Je vais leur dire ça, vous pouvez le faire très lent, mais ça va être leur gestuelle. Voilà, c'est un exemple. Donc là, après ce travail de recherche, quand j'extirpe ça, ça devient un travail de composition. Tout est écrit. Ça y est, là, le geste est écrit. Et ce travail de composition, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, j'ai plusieurs, voilà, au fur et à mesure, ça avance. Et puis après, je rejoins tout ça dans l'espace, en tant que chorégraphe, comme un chef d'orchestre. J'assemble les violons, les corps, le piano, etc. Et on arrive à la création chorégraphique.
Tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît? Juste musicien. On va remettre un peu de musique, après c'est continu de travailler. Je fais le point. Alors, hier on était contents. On était contents de notre soirée et on va rester dans cette dynamique. On ne va pas se dire, on est contents, donc il faut rester. Il faut aller au-delà. Il faut pas
faire danser des personnes handicapées, même si on imagine que quand ils dansent, on ne les voit pas comme des handicapés, mais plutôt comme des danseurs. Faire danser quand même ces personnes handicapées, c'est pas un moyen pour toi d'essayer de faire changer les mentalités, notamment de tes spectateurs?
On vit dans un monde où quand même l'image de la personne, regardez les magazines, on est quand même envahi de beauté plastique. Eh bien oui, je pense que j'ai envie, bien sûr, de faire passer ce message et de dire que... voilà, c'est comme si... comment dire, on vous appelait, vous êtes petite, c'est pas le cas, hein, mais on vous appelait la petite. Et pourquoi toujours parler de celui qui est handicapé par handicap? Ils sont danseurs avant d'être handicapés. Donc bien sûr que je sais que j'essaie de d'enlever des clichés, de les bousculer, mais c'est pas simple. Mais en même temps, ça me plaît bien aussi, mais j'ai vraiment envie, effectivement, de... À mon petit niveau, de faire ouvrir, d'ouvrir quelques fenêtres aux gens.
Est-ce qu'il y aurait moyen de voir un spectacle, je sais pas, de hip-hop, par exemple, avec pas forcément avec des personnes âgées?
Bien sûr. Ah, mais j'ai fait une création en extérieur à Chalonne-sur-Loire, il y a 2 ans, et j'avais des personnes âgées et j'avais des ados et qui sont venus me voir travailler. J'ai dit, les gars, et qui m'ont montré des choses. J'ai dit, vous restez avec nous. Ben, bien sûr, mais c'est évident. Moi, j'ai fait une création l'année dernière. Il y avait des gens qui faisaient des claquettes. Et j'ai dit, Véro, tu fais des claquettes ? On va intégrer ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que pour moi, toutes les techniques sont les bienvenues. Quelqu'un qui fait de l'aïkido, qui va faire une roulade au sol et qui va repartir. Mais bien sûr, au contraire, c'est une vraie richesse. Et quand je parle des ressources de chacun, si un ado vient qu'il a fait du hip-hop, mais bien entendu. Et ce qu'il fait, mais moi je ne suis peut-être pas capable de le faire, mais ce n'est pas ça qui est important. Et de se dire que, ben oui, on est différent, donc tout le monde n'est pas capable de dire la même chose. On n'est pas fait pour vivre les mêmes choses, donc on n'est pas fait pour vivre le même type de danse, mais associer toute cette diversité, c'est un plus. Oh là là, mais on ne s'ennuie pas, c'est formidable ça.
Tu me disais qu'hier, vous aviez fait le spectacle Les mots mettent la danse, c'est bien ça?
Oui, hier soir, oui, la première.
J'imagine que vous avez eu quelques retours du public. Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensaient, le public, de tout ça?
Moi, ce que j'ai entendu hier, ça dure 50 minutes. Il y a quelqu'un qui vient, voilà, quelqu'un qui est lié à la culture, qui m'a dit, moi, je me sens embarquée à chaque fois. Et on ne regarde plus les fauteuils, et on ne regarde plus les gens trisomiques comme dans d'autres pièces. Et c'est un spectacle comme un autre. La seule chose, c'est effectivement le sujet, la thématique de la pièce peut toucher plus, puisque là, il y a une comédienne qui parle de tout ce qui touche la personne qui est soignée à domicile et les soignants. Mais voilà, les gens vont... Moi, j'ai envie que les gens ils viennent voir un spectacle comme ils vont à un autre spectacle et qu'ils reçoivent en fonction de ce qu'ils sont. Maintenant, on peut aimer ou pas aimer l'esthétique, hein, ça fait partie du challenge, hein, voilà, hein, on accepte aussi, il y en a qui peuvent être touchés, il y en a qui vont dire, ben moi ça me rappelle ma grand-mère, ce qu'elle a vécu, il y en a d'autres, voilà, ça résonne pour chacun différemment, dans la tête de chaque public, spectateur. Eh bien si résonance, elle a cette singularité, tant mieux, si c'est pour ouvrir d'autres horizons, d'autres perspectives, d'autres, moi je dirais d'autres espérances aussi.
Il faut qu'on soit efficace là parce que vous allez me dire que vous n'êtes pas temps. Regardez, moi j'étais au quatrième rang sur la droite. Regardez quand je suis là. J'étais comme ça, ça veut dire que les gens qui étaient là en bord, eh bien, ils ne voyaient pas. Donc ici, c'est de ma faute, hein. C'est pas de votre faute. Ici, remettez-vous voilà, là.
Merci à vous d'avoir écouté ce Univox. On se dit à très très vite sur les terres angevines. Salut!